Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les difficultés pour dater les cinq premiers livres de la Bible, appelés Pentateuch chez les chrétiens, Torah chez les juifs, demande l'exégète philologue Thomas Römer. Quels sont les textes qui seraient de l'époque de Salomon ou de l'époque perse? Peut-on postuler que le Pentateuch aurait été achevé au VIe siècle avant l'ère chrétienne? Entre stimulante érudition et actualisation des recherches, Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques au Collège de France, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne où il enseigne également la Bible hébraïque, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques. Il interroge cette année la naissance de la Bible entre anciennes et nouvelles hypothèses. Thomas Römer, philologue et exégète, s'attache à faire dialoguer l'archéologie moderne avec les sciences bibliques critiques. Dans cette perspective, il vient de publier avec l'archéologue Israël Finkelstein « Aux origines de la Torah » chez Bayard. Dans une interview récente autour de ce stimulant livre, Thomas Römer rappelle les grands changements qui sont intervenus dans l'archéologie de la Terre Sainte, notamment concernant les récits des origines, des patriarches ou l'Exode. Ces récits ne s'avèrent pas toujours étayés par l'archéologie. Ainsi, les royaumes d'Israël et de Juda ne deviennent importants qu'à partir des 8e-7e siècles avant Jésus-Christ. Cette approche a remis en question un certain nombre d'idées sur les règnes de David et de Salomon. Ce bouleversement des chronologies situe désormais la plupart des écrits bibliques à partir des 8e-7e siècles avant Jésus-Christ. Pour Thomas Römer, il s'agit alors de s'intéresser aux contextes historiques dans lesquels les textes bibliques ont vu le jour. Ces textes doivent être analysés de manière historique, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont une histoire. Pour mener à bien cette démarche exégétique, nous travaillons, dit-il, sur les récits les plus anciens de Qumran en comparant leur diversité selon les transcriptions, les différences de style, de vocabulaire, les ruptures, une sorte d'archéologie du texte. À partir de ces sources, nous apprenons à distinguer leurs différentes strates. L'informatique vient à notre aide par comparaison des différents récits bibliques soulignant leurs évolutions et changements. Ce sont ces questions que nous retrouvons aujourd'hui. Quand les textes ont-ils été fixés et qu'est-ce qu'un canon? Pourquoi est-il difficile de fixer une ligne de démarcation claire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu tardif? Enfin, la Torah fut-elle compilée exclusivement à Jérusalem? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 mars 2019 pour le cours de Thomas Römer. Aujourd'hui, comment peut-on dater les textes bibliques et quelle est l'histoire des canons de la Bible?
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du canon. Comment le canon, ce qu'on appelle le canon, s'est construit. Mais auparavant, il nous faut continuer un tout petit peu dans notre enquête sur la difficulté, parce que comment ça se fait que les biblistes disent tel texte date du 7e siècle, tel texte date du 8e, tel texte date du 4e siècle? Comment peut-on savoir? C'est pas si simple que ça. Je vous ai montré, on a terminé la semaine dernière avec Spinoza, qui était un des premiers en fait à se poser la question. Et lui avait en effet une manière assez simple en fait argumenter en disant il y a une grande histoire qui va jusqu'au livre des rois. Donc en fait l'auteur de cet ensemble, de la Genèse jusqu'au deuxième roi, il ne peut pas être avant la destruction de Jérusalem. Et puis donc, il pensait qu'il faut dater l'ensemble de tous ses écrits à l'époque perse. C'est une bonne observation, mais qui n'était évidemment pas assez précis. Donc je vous ai rappelé qu'à l'époque, ça lui valait quand même d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam. En plus, il était plus philosophe que bibliste, donc il n'avait pas tous les outils. Parce que le problème, en fait, que Spinoza n'avait pas encore vu ou n'avait pas vraiment pris en considération, c'est en effet l'observation des différences stylistiques et aussi idéologiques à l'intérieur de ce livre. Et un des premiers à en faire une observation qui menait vers des datations des différents textes, c'était Wilhelm Martin Leberecht de Wette, qui avait enseigné à Bâle et ensuite à Berlin, et qui, dans sa thèse, avait en effet essayé de montrer la particularité du livre du Deutéronome à l'intérieur du Pentateuque. Parce que le livre Deutéronome, déjà le titre Deutéronome, deuxième loi, montre que c'est un peu un statut particulier. Et puis il avait d'ailleurs observé un certain nombre de phénomènes. Par exemple que, si vous regardez la fin du Lévitique au chapitre 26, vous avez déjà une conclusion avec des bénédictions et des malédictions qui sont très très proches de ce que vous avez à la fin du Deutéronome. Donc, deux conclusions parallèles. Du coup, on peut se poser la question que Wette se posait. Est-ce qu'en effet, il y a une différence entre ce qu'on pourrait du coup appeler le Tétrateuque, les quatre premiers livres, et le Deutéronome. Et c'est ça, en effet, ce qui va le pousser à poursuivre son investigation. L'idée, en effet, que le Deutéronome provient d'un auteur ou d'un milieu différent de ceux des livres précédents. Et il a également observé, ce qu'on peut clairement observer, que vous avez un certain nombre de récits qui figure à la fois dans les livres de Genèse et de Nombre, jusqu'à Nombre, et dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on récapitule l'histoire des espions qui ne voulaient pas entrer dans le pays, on récapitule comment Moïse installe des juges pour se faire décharger, etc. Donc il y a en effet des récits parallèles. Du coup, c'est aussi très peu vraisemblable que ce soit le même auteur qui, deux fois, raconte à peu près la même chose. Et Wette a également observé une chose, à savoir que dans le Deutéronome, ce qui est central, c'est cette idée de la centralisation du culte, à savoir qu'il y a un seul endroit que Yahvé va choisir pour qu'on y offre des sacrifices. Ça, c'est au chapitre 12, ce qu'on appelle souvent la loi de centralisation, et qui, selon Wette, et il a été suivi par beaucoup de monde, fait allusion en fait au temple de Jérusalem. Alors, si ça fait allusion au temple de Jérusalem, à quel moment un tel texte a été écrit? Ça, c'était la question de Wette. Et puis, alors, il fait un rapprochement avec ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, en 2 rois 22 et 23. Josias, en effet, selon ce récit, aurait en effet centraliser tout le culte de Yahvé en interdisant toutes les autres sanctuaires à Jérusalem. Alors Josias, on peut le dater, on peut le dater vers 620 avant notre ère. Donc du coup, ça c'était l'idée de Wette, le Deutéronome, au moins la première édition du Deutéronome, a été écrit pour légitimer la réforme de Josias. Alors Wette avait l'idée qu'on aurait caché secrètement le livre dans le temple. Ça, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire d'imaginer. Mais le lien entre le Deutéronome et la réforme de Josias, ça c'est une observation de Marc qui, comme le disait après Otto Eisfeld, ça devient une sorte de point d'Archimède pour la datation des textes du Pentateuque. C'est-à-dire, il y a du coup des textes pré-deutéronomiques qui sont avant le Deutéronome et qui sont après le Deutéronome. Et la première version du Deutéronome, si vous le datez au 7e siècle, vous avez en effet, pour la première fois, une sorte d'accroche chronologique qui est en effet le résultat d'une observation historique et qui est en dehors, en effet, du Pentateuque. Parce que le Pentateuque, évidemment, se présente comme des origines qui se terminent avec la mort de Moïse. Et là, pour la première fois, Wette avait trouvé en fait une possibilité de relater certains textes à un événement spécifique. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous ce magnifique texte, ce qu'on appelle parfois la vocation d'Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction, et je vais bénir ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je le maudirai, en toi seront bénis ou se béniront toutes les familles de la terre. » Alors, comment vous allez dater ce texte? Il date de quelle époque? Il n'y a pas de date, tout à fait, il n'y a pas de date. Donc je vais vous montrer la difficulté. Alors, Gerhard von Rad, dont je vais vous parler encore plusieurs fois, lui, il avait dit c'est l'époque de Salomon. Pourquoi c'est l'époque de Salomon? Parce qu'il pensait, en effet, on en parlera quand on parlera du Pentateuque, son Yaviste, donc la source la plus ancienne du Pentateuque, sera située dans ce qu'il appelait, lui, les Lumières salomoniennes, et que, en effet, le fait que la bénédiction et la grande nation et le pays sont promis et, selon lui, sous Salomon, d'une certaine manière réalisé, lui permettait de dire que ce texte date vers 930 avant l'ère chrétienne. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Louis Ska, qui enseigne à l'Institut pontifical à Rome, qui dit que ce texte date de l'époque perse. Donc vous avez 500-600 ans de différence. Oui, c'est pas facile. Mais lui, il a une autre observation. Il dit, et là il a raison, de ce qu'on dit ici à Abraham, c'est une rhétorique qui vient de l'idéologie royale. C'est au roi qu'on promet, en effet, de rendre grand son nom et de devenir une source de bénédiction, comme vous pouvez le voir en 2 Samuel 7 pour David, ou encore dans le psaume 72, au roi en général. Donc du coup, Ska a une observation très simple, il dit le fait qu'on transfère l'idéologie royale sur Abraham signifie que nous sommes à une époque où il n'y a plus de roi en Israël et où cette idéologie devient disponible pour l'appliquer à quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas quelle solution vous préférez, mais vous voyez en effet que si vous vous basez seulement sur le contenu d'un texte, ce n'est pas si clair que cela. J'ai une sympathie avec la théorie de Ska, mais disons, elle reste fragile. Du coup, comment trancher? Alors, certains disent, mais c'est très simple, en fait, il y a cas. Mais il y a cas, c'est compliqué, parce que les gens disent qu'il faut chercher des indications spécifiques dans les textes. Mais si vous regardez le Pentateuque, là, il y a un problème, parce que dans le livre des rois, en effet, il y a des facilités d'une certaine manière, parce qu'on parle de tel ou tel roi assyrien, égyptien, qu'on peut aussi retrouver dans d'autres documents et qui donne au moins une datation approximative. Dans le Pentateuque, en fait, vous avez très peu de personnages que vous pouvez, en effet, mettre en rapport avec des événements historiques. Dans l'histoire d'Abraham ou de Joseph, dans l'histoire de l'Exode, on parle beaucoup de Pharaon. Mais c'est quel Pharaon? Alors, parfois, on dit c'est Ramsès, parce que c'est un grand Pharaon. Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Si on voulait dater, on aura pu donner le nom. Seule exception, c'est pour le roi philistin Abimélec, où on a éventuellement, chez les Assyriens, un dénommé Abdi Milik, roi philistin. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout à l'époque des patriarches. On est au 7e siècle. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des récits du Pentateuque, en fait, veulent construire des types de personnages, des récits, en effet, typiques, symboliques d'une certaine manière, mythiques aussi, et qui cherchent à décrire l'intervention de Yahvé en faveur de son peuple, sans qu'ils disent « ça va, en effet, faire allusion à tel ou tel événement précis ». Et donc ça, je pense, il faut en effet le prendre en considération. On aura l'occasion d'y revenir, mais la volonté de vouloir trouver des dates pour les patriarches ou pour l'Exode ou pour Moïse, à mon avis, c'est un peu une tentative quelque peu difficile, voire erronée. Parce que souvent, derrière cette idée de vouloir dater l'époque des patriarches, de vouloir dater l'Exode, il y a cette idée que la vérité des récits bibliques dépend de leur historicité. Donc, si ça ne s'est pas passé, alors ça veut dire que la Bible ne dit pas vrai. Donc, il y a plus là, je dirais, des options de convictions, alors qu'est-ce qu'il faut dire, religieuses, qu'une approche d'historien. Donc je pense, en effet, il ne faut pas mélanger les deux niveaux. Et la question de la vérité, il faut se poser autrement cette question qu'en fonction de l'historicité des événements. Je pense qu'un récit peut être tout à fait vrai, d'une certaine manière, même s'il ne s'est jamais passé. Prenez l'histoire de Cain à Abel. C'est une histoire qui ne s'est jamais passée, mais qui, d'une certaine manière, se passe tout le temps. Parce que c'est une réflexion sur l'origine de la violence. La vérité ne réside pas dans l'historicité des deux personnages. Parce que là, très vite, vous avez des grands problèmes. Parce que, posez-vous la question, d'où est-ce que Cain a trouvé sa femme? Parce que si vous prenez l'historicité dans un sens très, très précis, il n'y avait pas d'autres humains à l'époque sur la Terre que Adam, Ève et les deux enfants. Donc ça montre en effet que nous sommes là sur un niveau du récit, du mythe. Et donc il ne faut pas confondre l'historicité des événements avec des possibilités justement de légitimer d'une manière ou d'une autre. Mais revenons à la question vraiment de la datation des récits. Alors là, il y a une possibilité à laquelle beaucoup de gens croient, c'est ce qu'on appelle l'évidence linguistique. Là, il y a l'idée qu'on a là des outils tout à fait précis, voire objectifs. À savoir, on va dire, il y a une distinction qu'on peut faire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Donc l'hébreu, comme toutes les langues, évidemment, a connu une évolution. Et donc, si vous regardez certains textes, vous voyez que les livres des chroniques, par exemple, sont écrits dans un hébreu différent que les livres des rois. Et ce qui pourra montrer que les chroniques sont plus récents que les livres des rois. Donc ça, c'est une méthode qui est très suivie, surtout aux États-Unis, en partie en Israël, disons plus à Jérusalem qu'à Tel Aviv, et qu'en Europe, on est hésitant. Et je montre tout de suite pourquoi on est hésitant. Il y a des précautions qu'il faut prendre avec cette idée qu'une fois qu'on a, soi-disant, décidé que ce soit l'hébreu classique ou l'hébreu tardif, ou qu'on arrive à dater le texte. Je vais vous montrer tout de suite le problème. La première question qu'il faut se poser, est-ce que l'hébreu biblique était une langue parlée? Ça, c'est une grande question. Parce que si on fait l'évolution d'une langue, c'est par rapport à une langue parlée. Mais est-ce que l'hébreu biblique, qui, nous allons le voir plus tard, est en partie l'invention d'un groupe qu'on appelle les Massorètes, est-ce que c'était vraiment ainsi qu'on parlait au 9e, 8e, 7e siècle avant notre ère? Rien de plus sûr. Autre chose aussi, est-ce qu'on peut postuler une langue hébreu biblique unifiée? Est-ce que dans le nord, à Samarie, on parlait exactement de la même manière qu'à Jérusalem, voire à Beersheba? Donc il y a certainement des variantes dialectales, des variantes géographiques, certainement aussi. Et je vous montre tout de suite le problème. Tout le monde est d'accord que le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, est un des derniers livres de la Bible hébraïque. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que c'est en effet un hébreu qui est tardif d'une certaine manière et qui a des particularités qu'on va retrouver après dans l'hébreu de la Mishnah, dans l'hébreu rabbinique. Donc c'est vrai que là, nous avons un livre qui est vraiment écrit dans cet hébreu-là. Mais en même temps, vous avez l'histoire de Jonas, que beaucoup vont aussi dater à l'époque hellénistique, où la première partie de Zacharie, qui est déjà par les auteurs datée aussi à l'époque perse, qui sont écrits dans un hébreu tout à fait classique. Donc c'est difficile de simplement prendre l'état linguistique d'un texte. Alors comment expliquer ça? Donc d'abord, il faut dire en effet, il est clair que c'est très très difficile de fixer une ligne de démarcation précise entre ce qui est l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Et encore récemment, Cynthia Edenburg de l'Université Tel Aviv, elle a fait une observation très très intéressante. Elle a montré en effet que les textes qu'on admet souvent comme tardifs de la période perse, qu'on date aussi avec parfois l'évidence linguistique, en fait, ils ont la même particularité qu'on trouve dans les inscriptions, en dehors de la Bible, des inscriptions hébraïques du 9e ou 8e siècle, à savoir, ils mettent, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui mettent le COD, donc dans l'accusatif, dans les pronoms, directement, ils le collent directement au verbe. Alors que vous avez aussi une autre manière de l'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à la fois dans les textes tardifs, mais au niveau des inscriptions, vous avez ça déjà 9e, 8e siècle. Donc l'hébreu biblique est autre chose qui simplement une sorte de photo d'une langue à un moment précis. C'est une langue qui est devenue une langue sacrée et dont la longévité a dépassé le stade parlé. D'ailleurs, il faut aussi vous imaginer que, comme je vous ai déjà dit, les rédacteurs, les réviseurs du texte, quand ils ont trouvé le texte, quand ils ont ajouté du texte, ils savaient évidemment écrire de la même manière que les textes qu'ils étaient en train de rédiger, d'actualiser. Donc ils connaissaient bien, c'est des scribes, ils savent très bien comment il faut écrire pour rester dans le même style de l'Exode ou des Proverbes, etc. Et le fait que le seul livre qui est très clairement hébreu tardif, que ce soit Coëlette, ce n'est pas par hasard, parce que c'est probablement le seul livre de la Bible qui a été écrit d'un seul trait. Et si ça a été écrit seulement au IIIe siècle, alors évidemment, on peut comprendre pourquoi, là, on a ce fameux hébreu tardif. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le sait aussi à l'extérieur de la Bible. Des scribes mésopotamiens, au VIe, Ve siècle, ils savaient encore écrire le sumérien, alors que personne parlait le sumérien depuis 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être très très prudent avec cette idée, il n'y a qu'à décider que c'est de l'hébreu classique et c'est l'hébreu tardif. Il y a des gens à Jérusalem qui disent en effet tout le Pentateuque a été terminé au 7e, 6e siècle parce qu'il est écrit en hébreu classique. Mais c'est oublier que les scribes peuvent en effet, encore à l'époque hellénistique, écrire en hébreu classique s'ils veulent travailler sur un certain texte. Alors on peut faire attention au style, mais il ne vous donne pas la solution non plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres solutions? Notre solution, c'est ce qu'on appelle les arguments ou des argumenta ex silentio. Ça, c'est une méthode qu'on trouve aussi dans les études classiques. L'idée étant, si quelque chose n'est pas mentionné, ça n'existe pas encore. Un de ceux qui a essayé d'appliquer ça au texte biblique, c'est Forlender, qui avait essayer de montrer que la plupart des textes narratifs du Pentateuque qui ne se trouvent pas dans la fameuse source sacerdotale dont je vous parlerai, qui date d'une époque tardive, qui ne sont pas attestés dans d'autres parties de la Bible, chez les prophètes ou chez les écrits, avant l'époque exilique ou perse, donc avant le VIe siècle. Et donc, du coup, son idée, c'est que tous les textes narratifs du Pentateuque ne datent seulement que à partir de l'époque babylonienne. Alors, c'est un argument qui est aussi un tout petit peu difficile parce que l'absence d'une allusion à une traduction ne signifie pas que cette traduction n'existe pas du tout. On peut aussi pas la mentionner parce que elle n'est pas considérée comme importante ou parce qu'elle est gênante ou parce que vous avez en effet dans toute la Bible aucune allusion à l'histoire d'Adam et Ève. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement écrit à l'époque hellénistique? Probablement pas. Mais il y a quand même dans cet argument ex silentio quelques observations qu'on peut faire qui sont intéressantes. C'est par exemple, quand on regarde la figure d'Abraham, comment il est cité en dehors de Penta ou Hexateuque dans les livres de Genèse jusqu'à Josué. On voit en effet que contrairement à Jacob qui est cité tout le temps, Abraham est très très peu cité. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, si vous prenez ce tableau-là, il n'y a aucune occurrence du couple Abraham et Isaac. Il y a quelques citations d'Abraham avec Jacob, jamais avec Isaac. Et quand on regarde les textes les plus anciens, qui datent en effet des prophètes qu'on peut situer vers la fin de l'époque babylonienne, au début de l'époque perse, ben là, en effet, vous avez Abraham qui est présenté comme étant seul. Pourquoi il est seul? Il n'a pas encore de fils ou c'est très curieux. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est mis en relation à la fois avec le pays, parce qu'il a possédé le pays, mais ce n'est pas comme dit la Genèse, où c'est Dieu qui lui a promis le pays, là il a possédé le pays, et il a été infertile et il a eu une descendance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, dans ces deux allusions, quelques liens avec des grands thèmes de la Genèse, le pays et la descendance. Et quand on regarde ce texte du VIe siècle, d'Ézéchiel 33, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est difficile d'imaginer qu'on aurait inventé Abraham à ce moment-là, parce qu'il n'est pas présenté comme quelqu'un d'inconnu. Hein? Auprès des destinataires, ben, il est considéré comme, mettons, en effet, que les destinataires savent de qui on parle. C'est pas un personnage que personne ne connaît. En même temps, dans les deux cas, il n'est pas lié ni à Isaac ni à Jacob. Donc, est-ce que, à ce moment-là, la tradition d'Abraham était déjà reliée à la tradition de Jacob? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, vous avez des questions qu'on peut également poser. Terminus ad quo et terminus ad quem. À partir de quand est-ce qu'il est possible que tel ou tel texte littéraire a pu être écrit? Et jusqu'à quand il a dû être écrit. Hein? Exemple très classique, c'est la fin des livres des rois. La fin des livres des rois se termine avec le roi Joachim qui sort de sa prison babylonienne sous le règne de Amel-Marduk, qui est ici vocalisé Evel-Merodach par les Massorètes. On a d'ailleurs des tablettes mésopotamiennes qui parlent du roi Joachim. Donc c'est en effet... Là, il y a un souvenir historique. Et on sait que ce roi, il est mort vers 560. Donc Martineau avait dit, le Deutéronomiste, je vous parlerai du Deutéronomiste plus tard, le Deutéronomiste, en effet, a écrit son œuvre juste avant la mort de Avel-Marduk, parce qu'il ne raconte rien d'autre. Alors, est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut en tirer? C'est-à-dire, c'est en effet la date la plus tôt possible. Mais est-ce que c'est nécessairement la date la plus tard? Ça, je vous donne une citation d'un professeur d'Édimbourg qui dit « Le fait que les livres des rois s'achèvent sur le destin du dernier roi de Juda ne nous dit pas plus sur la date de leur composition que le fait que le Pentateuque s'achève sur la mort de Moïse. » On a déjà parlé de la mort de Moïse. Donc, c'est-à-dire, on peut arrêter une histoire en l'écrivant dans un contexte beaucoup plus éloigné du dernier événement qu'on écrit. Ça peut être aussi une option simplement théologique, idéologique. Peut-être voulait-il montrer que le destin de Joachim est symbolique pour le destin des exilés qui, désormais, peuvent s'installer en diaspora. Donc vous pouvez dire que c'est la date la plus tôt possible, mais pas nécessairement la seule date de composition.
Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Aujourd'hui, comment peut-on dater les textes bibliques et quelle est l'histoire des canons de la Bible?
Vous avez d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Par exemple, l'expression de Ur Kasdim, Ur des Chaldéens. Hein? Abraham qui doit venir de Ur de Chaldéa. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que cette expression Ur Kasdim, qui n'est pas beaucoup attestée, est construit à partir du nom Kasdim, qui est largement attesté, et qui désigne toujours les néo-babyloniens, donc qui ont régné à partir du VIe siècle, fin du VIIe et VIe siècle. Donc ça veut dire que les textes qui utilisent ça, même les textes d'Abraham, ils ne peuvent pas être écrits avant. C'est des textes qui, au plus tôt, peuvent être écrits au VIe siècle. Et idem pour Yavan. Yavan, dans le Pentateuque, est utilisé pour désigner des populations grecques de l'Asie mineure. Et si vous regardez où cette expression arrive, c'est toujours à l'époque perse, voire à l'époque hellénistique. Donc là aussi, on peut dire que c'est sans doute dans ce contexte-là que le texte, ce qu'on appelle la table des nations, qui parle de Yavan, est écrit. Il faut dire quand même qu'il y a une inscription d'Assarhaddon qui fait déjà allusion à la Ionie, donc ça pourrait être légèrement antérieur. Néanmoins, on a là quand même des possibilités, au moins, de dire tel ou tel texte n'est pas possible avant le 7e siècle ou avant le 6e siècle. Donc c'est quand même déjà quelque chose. Mais ça ne vous dit pas à quel moment précis c'est écrit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme d'autres possibilités? On a la possibilité de dater les textes par des comparaisons avec des textes en dehors de la Bible. Hein, tout le monde sait que le récit du déluge de la Bible est très proche du récit du déluge qu'on trouve dans la 11e tablette de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut d'abord dire que très probablement, les auteurs de ce texte, parce que pour compliquer la chose, L'histoire du déluge dans la Bible, c'est au moins deux strates, mais bon, on va laisser ça de côté pour le moment, que les auteurs de ces deux strates connaissaient ce texte. Mais à quel moment est-ce qu'ils ont pu connaître ce texte ? À l'exil babylonien, lorsqu'ils étaient à Babylone, ça c'est en effet assez plausible, parce que là, évidemment, ils avaient certainement entendu parler du déluge, aussi de la création sans doute. Ou est-ce que ça a été déjà véhiculé par exemple, par des marchands assyriens ? Donc là aussi, on n'est jamais tout à fait clair. L'histoire de la naissance d'Ismaël, ça c'est intéressant aussi, parce que là aussi, vous avez quelques possibilités. Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, on peut peut-être le mettre en rapport avec une sorte de regroupement de tribus arabes qui s'appellent Shumuil, et qui sont attestés, en effet, dans des inscriptions assyriennes, qui datent du 7e siècle. Donc, est-ce que c'est dans ce contexte-là que l'auteur de Genèse 16 veut montrer que Abraham est le père de ces tribus ? Est-ce qu'il veut faire une sorte de lien entre des Judéens qui sont à Hébron et qui fréquentent ces groupes semi-nomades qui sont appelés par les Assyriens Shumuil ? Ça, c'est possible. Autre possibilité, c'est quand vous avez un récit en dehors de la Bible qui est très proche d'un récit biblique. Ceux qui suivent le cours, ils ont déjà vu les parallèles qu'on peut très facilement faire entre le récit de la naissance de Moïse et la naissance du roi Sargon, hein, qui se réfère en fait au roi Sargon Ier, mais qui a été fabriqué à l'époque de Sargon II pour légitimer ce roi. Et là, on a trouvé de manière matérielle les tablettes. Alors ces tablettes-là, ils datent justement de la fin du 8e, début du 7e siècle, et donc ça nous donne de nouveau sorte de termino sacro. Il est très très vraisemblable que le récit d'Exode 2 présuppose en effet ces textes-là. Et donc on peut dire qu'il peut être écrit au 7e siècle. Il pourrait être écrit plus tard, mais voilà, c'est la date la plus tôt possible. Et puis dans le même veine, c'est les parallèles qui existent entre le livre du Deutéronome, ça, De Wette ne connaissait pas encore, mais qui vont en effet porter de l'eau sur le moulin de De Wette, hein, les parallèles entre les traités de vassalité assyriens et le livre du Deutéronome. C'est des parallèles qui sont très très forts, notamment avec un de ces serments de loyauté, qui est le serment de loyauté d'Assarhaddon, et qui peut être daté de manière tout à fait précise de 672. Et nous savons, grâce à l'archéologie, que les Assyriens faisaient des copies de ces traités. Ils les mettaient partout, dans tous les sanctuaires des pays soumis. Et donc, il y avait certainement une copie dans le temple de Jérusalem. Et donc, c'était facile pour les scribes de reprendre, en effet, ce que dit le traité d'Assyrien et ce que dit le Deutéronome. Donc, je vous laisse regarder. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, comme toi-même. Tu tiendras tout ce qu'il demande. Tu ne chercheras pas d'autre seigneur que lui. Et toutes les paroles, etc., tu les répéteras à tes fils. C'est le langage biblique. Sans les Assyriens, on n'aura jamais eu le Deutéronome. Non, c'est vrai. Donc, là, du coup, vous avez aussi des possibilités de dater. Le Deutéronome ne peut pas dater avant 672. Alors, quand est-ce que ça a été écrit ? Ça, on peut de nouveau discuter. Est-ce que c'est plus tard ? Mais si on dit que le Deutéronome a été écrit à l'époque perse, comme certains de mes collègues en Allemagne aiment tellement le dire, mais pourquoi à l'époque perse, ils vont aller chercher les traités de vassalité assyriens ? Donc, c'est plus clair que... C'est, disons, plus logique pour moi, au moins. C'est plus logique que ce soit un moment où ces traités ont une certaine importance. Donc, 7e siècle. Donc, ça confirme, comme je vous ai dit, la théorie de von Wette que le Deutéronome primitif a été rédigé dans le contexte de la réforme de Josias. Donc, on a vraiment là, au moins, quelque chose de relativement sûr. Évidemment, oui, alors, c'est pas l'ensemble du livre du Deutéronome, parce que le Deutéronome, évidemment, a été aussi révisé, rédigé au fur et à mesure. Après, on peut faire des datations relatives en comparant des récits parallèles à l'intérieur de la Bible. Donc, je vous ai déjà parlé des livres des chroniques et des livres des rois. Les chroniques qui réécrivent l'histoire des rois et qui sont probablement, disons 80% des biblistes sont d'accord, qui sont probablement plus récents. Aussi, là, du coup, il y a l'argument linguistique qui peut aussi entrer en considération parce qu'ils ont un autre hébreu. Et idem, on peut comparer la loi du Deutéronome avec la loi qu'on trouve en Exode 20 et 23, ce qu'on appelle le Code d'Alliance, et on peut aussi voir comment le Deutéronome réécrit cette loi. Ou comment Lévitique 26, contrairement à ce qu'avait pensé De Wet, semble présupposer les textes du Deutéronome, va des textes sacerdotaux, et doit être donc plus récent. Donc ça veut dire qu'on peut établir pour certains textes, quand on a des parallèles, une chronologie relative, mais vous n'avez pas, évidemment, des dates précises. C'est comme un archéologue qui fait des strates. Après, il faut le corréler à des événements historiques. Et pour cela, le Deutéronome reste toujours important. Mais je crois qu'il faut aussi, pour conclure cette partie, il faut quand même toujours partir de, bah, comme les archéologues aussi, de ce qui est le plus sûr. Le plus sûr, c'est l'époque perse. C'est l'époque perse. Après, il faut essayer de remonter. On peut remonter, évidemment, avec le Deutéronome, me semble-t-il, jusqu'au 7e siècle, mais il faut aussi être tout à fait conscient que plus qu'on remonte dans le temps, plus que ça devient incertain. Si on veut dater un texte du 9e voire 8e siècle, il faut avoir des solides arguments. Il ne faut pas simplement dire « oui, ça va bien dans le 9e siècle ». Il faut combiner toutes les observations que nous avons à disposition. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans les cours qui vont venir. Donc c'est toujours un peu, il faut toujours commencer. Et là, c'est vraiment quelque chose où les sciences bibliques sont tout à fait en parallèle avec l'archéologie. Il faut commencer avec ce qu'on a, puis essayer de remonter couche après couche à ce qui est plus ancien. Et c'est pour cela qu'il faudrait que je vous parle maintenant du canon. Parce que là, déjà, on peut faire ce travail pour se poser la question quand est-ce que ça a commencé, et puis aussi de la diversité des témoins textuels, parce qu'on n'a pas encore parlé de cela. Quand on parle du Deutéronome, ben, on oublie qu'il y a au moins une cinquantaine de manuscrits du Deutéronome. Il y a déjà 20 à Qumran sur le Deutéronome. Ils ne sont pas toujours identiques. Donc quel Deutéronome est-ce qu'on a dans la tête quand on parle du Deutéronome? Pareil pour d'autres livres, bien entendu. Mais parlons d'abord du canon en trois parties. Alors, qu'est-ce que c'est un canon? Un canon, bah, ça vient d'un mot grec qui veut dire roseau, canne, et par extension, après la norme, la règle, et qui peut-être vient d'un mot hébreu, kané. Hein, canon est peut-être simplement la reprise d'un mot sémitique, kané, qui dit à peu près la même chose, tige, branche, mesure. Et ensuite, évidemment, le terme désigne une sorte de collection, un corpus de livres qu'on considère comme fondamental, comme indispensable, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan de l'instruction, par exemple. Les Grecs, ils avaient des canons, mais des canons éducatifs, que chaque petit Grec devait lire, connaître par cœur, pour devenir un vrai homme. Parce qu'à l'époque, l'éducation n'était pas encore très démocratisée. Donc il y a l'œuvre homérique, par exemple, qui est un canon pour les Grecs. Et les philologues d'Alexandrie, ils vont distinguer, en effet, au niveau des auteurs, ils faisaient des catalogues d'auteurs à retenir et des catalogues d'auteurs qu'il faut plutôt laisser de côté. Donc ceux qui sont retenus et sont ignorés, qui sont mis de côté. Et donc du coup, c'est les auteurs valables, les pratoménoi, qui entrent dans le canon. Ce n'est pas sans rappeler un peu l'histoire du canon biblique. Donc il s'agit en effet de répertorier des écrits fondateurs dans lesquels une communauté et un groupe se reconnaissent. Donc le canon biblique en soi n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il s'inspire surtout des canons hellénistiques. Mais vous avez dans le bouddhisme, dans le jaïnisme aussi, des canons de textes qui sont considérés comme étant fondamentaux. Même un canon de Confucius, d'une certaine manière. Vous avez d'ailleurs le même problème avec Confucius qu'avec Moïse. Confucius historique, bah, il y a peu de manuscrits, aucun manuscrit, en fait, qui remonte à son époque. Donc, on est toujours un peu dans le même problème. Alors, le terme, c'est intéressé, le terme n'est pas utilisé par les auteurs juifs de l'Antiquité, je veux dire. C'est un terme chrétien dont on trouve la première attestation au IVe siècle chez un père de l'Église, Athanase, qui l'utilise pour désigner les livres reconnus par l'Église. C'est la lettre de Pâques d'Athanase, où il fait la liste des livres qui deviennent en fait des livres officiels de l'Église latine. Le judaïsme parle plutôt des écrits, ou des écrits saints, Kitpe HaKodesh, ou encore des écrits qui souillent les mains. Ça, c'est une expression pour dire la sacralité d'un livre. Par exemple, quand on ne sait pas si un livre doit entrer dans le canon ou non, c'était le cas notamment du Kohelet ou du Cantique, les rabbins ont discuté, est-ce que c'est un livre qui souille les mains? C'est-à-dire, est-ce que c'est un livre qui, en le touchant, a une sorte de force presque de sacralité qui fait ensuite qu'on doit se purifier? Parce qu'il y a beaucoup de liens entre le sacré et l'impur, d'une certaine manière. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc le canon de la Bible hébraïque, en trois parties, en effet, n'a été définitivement défini qu'à partir du 1er siècle, mais probablement encore plus tard, 2e, 3e, voire 4e siècle de l'ère chrétienne. Donc ça veut dire d'une certaine manière que le canon de la Bible hébraïque et le canon chrétien vont se construire un peu en parallèle. Évidemment, aucun livre biblique n'a été écrit avec l'idée de devenir un livre canonique, comme pour le Nouveau Testament. Quand Paul a écrit ses lettres, il ne pensait pas que ça allait finir dans le Nouveau Testament. Le Deutéronome, le Lévitique, évidemment, c'est des livres qui étaient écrits pour, en effet, revendiquer une certaine autorité, mais pas du tout dans l'idée de s'être retrouvé dans un canon. Alors, le canon, quand est-ce qu'on en parle? Une des premières attestations d'un canon, on le trouve chez Flavius Joseph. Flavius Joseph, historien juif, mais qui n'était pas trop apprécié par les juifs à cause de ses collaborations avec les Romains, dont il doit toujours se justifier, donc va en effet écrire un petit ouvrage qui s'appelle « Contre Appion » en 95 de l'ère chrétienne. C'est un livre apologétique contre un philosophe romain auquel il veut montrer que le judaïsme est bien supérieur à la philosophie grecque et romaine. Et puis, dans ce contexte, il dit qu'il y a 22 livres seulement que les juifs gardent et connaissent, les 5 livres de Moïse. Depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerxès, 13 livres et encore 4 derniers livres qui contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. Alors, donc là, on a pour la première fois l'idée d'un canon en 3 parties. Évidemment, les 5 livres de Moïse, ça c'est facile. Pour les 13, c'est plus compliqué. Et ça montre déjà que le comptage n'est jamais clair. Parce que Esdras, Néhémie, ça peut être un livre. Les juges peuvent être considérés comme un seul livre ensemble avec le livre de Ruth, etc. Donc, le comptage n'est pas tout à fait clair. Et puis, les 4 derniers, probablement Psaume, Proverbe, l'Ecclésiaste et le Cantique. Mais donc, vous avez l'idée de 3 parties qui est évidemment encore éloignée de ce qu'on a après dans le canon tel qu'il a été défini. Et ce qui est intéressant, ça va donc pour lui de Moïse jusqu'à Artaxerxès. Donc de Moïse jusqu'à l'époque perse. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez également dans le Talmud, qui, en effet, en parlant des auteurs de la Bible, s'arrête aussi à l'époque perse. Un peu dans la même veine, nous avons le 4e livre d'Esdras, qui est justement attribué à Esdras, qui est dans la tradition, c'est lui qui fixe le canon. C'est Esdras, dans ce livre, inspiré par Dieu, aura dicté pendant 40 jours à 5 personnes 94 livres. 94. Mais des 94, il ne publie que 24 livres et les 70 autres, il les garde pour les seuls initiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, évidemment, il y a un canon ici, non pas de 22, mais de 24 livres. Et à côté, il y a 70 livres qui ne sont pas dans le canon. Donc ça veut dire aussi, ça reflète le fait que le canon, c'est aussi une sélection. On laisse beaucoup de choses de côté. Probablement, à cette époque, c'est un peu la même époque que Flavius Joseph, donc des livres de teneur, sans doute apocalyptiques, qui n'ont pas été jugés intéressants pour le canon. Mais là, pour le canon, on arrive à 24 livres. C'est aussi le chiffre que donne le Talmud, 24. Alors pourquoi 24? Est-ce que c'est 2 fois 12 ou est-ce qu'il y a une autre idée? Mais souvent on pense en effet que 24 est la tradition plus ancienne que le 22, comme le dit aussi un Midrash, qui introduit plus de 24 livres dans sa maison, fait entrer la confusion chez lui. Donc comptez vos livres, vous verrez. Après, il faut que ce soit les bons livres, c'est ça. Bon, là, on a 24 livres. Hein. On a 24. Chez Flavius, on avait 22. Alors, souvent, on dit que 24, c'est peut-être le chiffre plus ancien. Et le 22, on aurait essayé de trafiquer un peu pour arriver à 24, pour, en effet, arriver au nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. Hein. Parce que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Donc, du coup, c'est une belle manière de montrer un peu la cohérence, la perfection du canon. Mais du coup, si on dit 22, on peut aussi dire 27. Pourquoi 27? Les Hébraïsans le savent, parce qu'il y a 5 lettres qui s'écrivent différemment lorsqu'ils sont à la fin d'un mot, hein, comme le kaf ou le nun ou le mem, etc. À la fin d'un mot, ça s'écrit différemment. Donc, si on compte ça, on arrive à 27. Et donc, c'est une autre tradition selon laquelle, en effet, la Bible comprendra 27 livres. Et c'est, en effet, ensuite utilisé par les pères de l'Église, Jean Damascène, pour exemple, pour dire que les deux parties de la Bible chrétienne ont 27 livres. Parce que dans le Nouveau Testament, on compte aussi 27 livres. Ça, c'est plus facile à compter que le canon hébraïque. Et donc, c'est une manière, en effet, de présenter la Bible chrétienne comme une sorte de diptyque des deux parties, ou donner aux deux parties la même valeur. Alors que le Nouveau Testament, en comparaison avec l'Ancien Testament, c'est plutôt une brochure, au niveau déjà de la taille. C'est un petit cahier qu'on a mis à côté. Alors, l'idée que ça se répartit en trois, peut-être pour la première fois, on le trouve... Son comptage, on le trouve dans le prologue au livre du Siracide, hein, qui parle en effet, qui est écrit par le petit-fils du Siracide, vers 130, et qui dit « Il y a beaucoup de grandes choses nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis. » Donc là, on a une idée aussi de trois. Par contre, dans le Nouveau Testament, ben, on a souvent deux. On a la loi et les prophètes. Ou Moïse et les prophètes. Si vous lisez les textes du Nouveau Testament, vous n'avez pas tellement l'impression qu'on a l'idée de trois. Il y a une seule exception à ça, à la fin de l'évangile de Luc, avec les disciples d'Emmaüs, hein, où, en effet, Jésus se fait connaître aux disciples et il leur dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, est-ce que les psaumes, c'est le passe-prototo pour tout ? Pour tous les Ketuvim, est-ce que c'est seulement les psaumes? C'est difficile de savoir. Par contre, chez Philon d'Alexandrie, qui est quand même plus ancien que les écrits du Nouveau Testament, dans un livre où il parle des thérapeutes, une sorte de secte un peu comme les Esséniens, il dit qu'ils étudient les lois et les oracles de Dieu, annoncés par les prophètes, et les hymnes et les autres choses. Donc là, on a de nouveau l'idée de trois. Alors, ces trois parties, comment elles se sont constituées? Dans la tradition juive, c'est Esdras. Hein. Esdras aurait en effet fait le canon, il n'aura pas seulement fait le Pentateuque, il aura fait le canon en trois parties. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui, à mon avis, reste une observation valable quand on prend les trois parties, c'est une observation qui était déjà faite à la fin du XIXe siècle par Heinrich Graetz, qui dit que la canonisation des trois parties suit un peu les trois parties. C'est-à-dire que le Pentateuque est la partie la plus ancienne qui a connu un statut d'autorité. Après sont venus les prophètes et les écrits en dernier. Ça me semble en effet la théorie qui est la meilleure. Il y a une théorie minoritaire qui dit en effet que la loi et les prophètes étaient d'emblée canoniques. Donc à partir de l'époque perse, c'est pour cela que le Nouveau Testament parlera des lois et des prophètes, hein, et que la séparation ou que la considération plus importante qu'on donnait au Pentateuque, que ce sera venu seulement avec les rabbins au 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Mais ça, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Déjà, le simple fait que c'est le Pentateuque seul qui d'abord était traduit en grec. Si les lois et les prophètes auraient eu la même importance, on aurait traduit le tout en même temps. Les Samaritains qui n'ont gardé que le Pentateuque et non pas les prophètes vont dans le même sens. Donc je pense en effet que le premier qui reçoit un statut canonique, c'est la Torah, c'est le Pentateuque. Et là, de nouveau, on peut faire un certain lien quand même avec la tradition autour de la figure d'Esdras. Donc vous connaissez cette expression de Heinrich Heine qui avait dit que le Pentateuque, c'est une patrie portative. Hein, une patrie portative qui, en effet, se substitue à l'effondrement des structures étatiques comme le pays, la royauté, la cohésion géographique, et qui, en effet, offre aux exilés une patrie. Il ne faut pas oublier que le judaïsme va, en effet, naître comme une religion de la diaspora. Hein ? Jusqu'à 1948, il n'y a pas de pays. Hein ? C'est la diaspora. Il y a peut-être le bref épisode des Maccabées, mais bon. C'est quand même important. Donc, le Pentateuque va, en effet, répondre à cette question de trouver une unité qui ne peut pas se baser sur une royauté, sur une autonomie politique ou sur une cohésion géographique. Certes, le temple est reconstruit, mais si vous êtes à Babylone ou si vous êtes en Égypte, vous ne pouvez pas y aller plusieurs fois par année. Donc, il faut autre chose. Et donc, l'époque perse est, en effet, tout à fait l'époque propice pour que on va mettre en place quelque chose comme Pentateuque. Si on croit le livre d'Esdras et Néhémie, c'est l'œuvre d'Esdras. Bon. Esdras, il est présenté à la fois comme un prêtre, mais en même temps un scribe. Déjà, vous voyez le personnage d'Esdras. Parce que souvent, on va dire le Pentateuque, on va en reparler, le Pentateuque, c'est une sorte de coproduction entre un milieu plus sacerdotal et un milieu plus laïque. Et Esdras, comme par hasard, il est à la fois prêtre et scribe. Il vient à Jérusalem, envoyé par le roi perse, avec justement la loi de Moïse. Et puis sa généalogie le fait, en effet, remonter jusqu'à Aaron, jusqu'aux frères de Moïse. Et ensuite, on va présenter une sorte de lettre d'accréditation d'Esdras, un des textes écrits en araméen, ce qui a fait croire à certains que c'est en effet un document officiel. Dans cette lettre d'accréditation, ce qui est très important, c'est qu'on met en effet une sorte de parallèle entre la loi d'Esdras et la loi du roi perse. Donc vous avez la loi de ton Dieu qui est dans ta main, mais vous avez aussi le fait que c'est la loi de ton Dieu et la loi du roi, à la fin, ici au verset 26. Donc il y a une sorte de mise en parallèle entre la loi d'Esdras et la loi du roi perse. Et Esdras, en effet, vous connaissez la suite de l'histoire, va faire lecture de cette loi à Jérusalem. Il va, en effet, se tenir et pendant toute une journée, va lire toute la Torah. Alors, quelqu'un m'a dit, c'est possible. Je n'ai pas essayé. Essayer de lire tout le Pentateuque dans une journée, peut-être c'est faisable. Et donc après, le peuple va accepter la Torah et donc les Lévites sont là pour l'expliquer, pour soutenir, etc. Donc il est clair que ça ne s'est pas fait dans une journée, sans doute, et que même le personnage d'Esdras n'est pas au-delà de tout soupçon au niveau de l'historicité. Il n'y a jamais eu un Esdras. Par exemple, le Siracide ne le mentionne pas. Il mentionne Néhémie, mais il ne mentionne pas Esdras. Alors si Esdras était celui qui avait apporté la loi, c'est quand même intéressant qu'il le mentionne. Donc peut-être Esdras, c'est juste une construction, mais pour quelque chose qui se passe peut-être en effet à l'époque perse. Et à cause de cela, certains auteurs ont parlé même d'une autorisation impériale. Ça, c'est une théorie que je vais encore vous exposer. C'est une théorie qui a eu beaucoup de succès et qui, en fait, a été, en effet, avancé pour la première fois par un dénommé Frey, Peter Frey. Ce n'est pas du tout un bibliste, c'est un banquier à Zurich qui, dans ses heures perdues, s'intéressait à l'histoire de l'Empire perse et de la Bible. Et en lisant les textes, il s'est dit, mais en fait, est-ce que derrière cette histoire d'Esdras, est-ce que ce n'est pas le fait que c'est les Perses qui ont reconnu des traditions législatives des peuples soumis pour en faire une loi perse pour la province en question. Parce qu'en Esdras 7, en effet, comme je viens de vous le montrer, on insiste beaucoup sur le fait que la loi d'Esdras, c'est aussi la loi du roi. Et donc l'idée, c'est en effet que c'est une pratique perse et qui explique du coup aussi pourquoi dans le Pentateuque, on a mis, je ne veux pas dire c'est un fourre-tout, mais on a mis tellement de choses différentes tellement de lois, tellement de traditions, parce qu'évidemment, on pouvait soumettre au père seulement un document. Vous ne pouvez pas venir avec 4-5 documents disant « nous voulons l'autorité perse pour tous ces documents ». Donc, il fallait un document et donc, il y aurait eu du coup une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de nécessité externe hein, pour mettre tout ensemble. Et donc, ça expliquerait en effet le caractère composite de la Torah. C'est magnifique comme théorie. Le seul problème, c'est que en dehors de la Bible, on a très peu d'autres attestations. Dans les textes perses, on n'en parle jamais de cette coutume. Donc on a très peu de choses. La seule chose qu'on pourrait, peut-être deux choses qu'on pourrait avoir, le premier, c'est une trilingue de Xanthos ou de Letoon, qui est écrit en effet en grec et en lycéen et en araméen, où on va en effet, un satrape, un gouverneur perse, intervenir dans une histoire religieuse. C'est-à-dire, il s'agit d'un culte, un nouveau culte qui est fondé ou qui est refondé pour un couple divin à Xanthos, dans lequel un satrape perse intervient pour légitimer ce culte. Et c'est une inscription donc, qui est écrite en araméen, qui est en effet la langue officielle dans l'Empire pour les provinces à l'ouest. Mais ça pose tout de suite la question. Le Pentateuque n'est pas écrit en araméen, le Pentateuque est écrit en hébreu. Est-ce que les Perses feraient vraiment tout l'effort de lire 5 livres, je ne sais pas combien de chapitres, en hébreu, qu'ils ne maîtrisent probablement pas très très bien hein. Et évidemment, le Pentateuque n'est pas du tout comparable à cette inscription qui a peut-être une cinquantaine de lignes. Donc du coup, on est quand même assez éloigné. La chose qu'on peut en effet dire, c'est que les élites judéennes et israélites, ils connaissaient peut-être en effet le fait que parfois les Perses intervenaient dans des histoires religieuses et avaient peut-être en effet dans la tête, lorsqu'ils mettaient le Pentateuque ensemble, une sorte d'approbation par les Perses, probablement plus rêvée que réalisable, mais c'était peut-être ce qui les motivait. Et puis il y avait aussi le cas d'un prêtre égyptien, Ucha Oresne, qui à l'époque perse, justement, se met au service du roi perse et il est envoyé par le roi perse à Saïs pour restaurer le culte. Et donc on a voulu faire aussi quelques parallèles entre la mission de ce prêtre, donc Ucha Oresne, et la figure d'Esdras. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on peut imaginer que les auteurs bibliques se sont inspirés un peu de ces phénomènes-là. Mais cependant, la promulgation de la Torah est avant tout une décision interne. Mais une décision de qui ?
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le philologue exégète Thomas Römer dans le cadre de sa série « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les citations et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la naissance de la Bible en compagnie de Thomas Römer. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Culture.